Bonjour à tous.
L'inauguration de la mairie de Noirterre était déjà forcément un symbole fort.
Et la venue d'une ministre n'a fait que renforcer ce sentiment en fin de matinée hier. C'est d'ailleurs au nom du président de la République et du gouvernement que Sonia Backès, secrétaire d'État à la citoyenneté, accueillie par le conseil municipal des enfants, a expliqué sa présence.
C'est l'attention que porte le président de la République et le gouvernement sur la proximité, sur le fait d'apporter aux Français un service qui corresponde le mieux à leurs attentes, le plus proche possible, qui soit le plus réactif possible. Et c'est l'objectif évidemment de remettre la mairie au centre du village avec cette mairie annexe. Et puis il y a une démarche particulière avec ce conseil des jeunes qui permet là aussi un acte de citoyenneté fort avec finalement une implication dans la vie du quotidien, dans la vie citoyenne, avec le processus électoral, avec l'implication dans la vie de la cité. Et je pense que ça fait partie des choses qui manquent et qu'on va essayer de généraliser. Donc c'est un bel exemple qui a été initié par la maire. Et puis évidemment, une bonne collaboration ici entre l'État et les collectivités locales, les élus locaux, étant le premier maillon que les administrés voient.
Sonia Backès a dit sa fierté d'appartenir à la République, elle qui est une élue issue de la Nouvelle-Calédonie qui a renoncé à l'indépendance par référendum fin 2021. Pas de commentaire en revanche sur la polémique autour de l'un de ses conseillers écartés cette semaine car est-on identifié comme un ex-soutien d'Éric Zemmour. La secrétaire d'État à la citoyenneté a fait coup double en venant dans notre département puisqu'elle a aussi inauguré auparavant la Maison France Service de Parthenay avant de se rendre à Noirterre. Et c'est le sénateur Philippe Mouiller qui est à l'origine de sa venue, sous le signe de la citoyenneté, comme l'a souligné la maire de Bressuire, Emmanuel Ménard.
Parce que nous avons une petite particularité, c'est que nous sommes une ville avec 8 communes déléguées, et que nous pensons, comme beaucoup de politiques ici, que la citoyenneté, c'est aussi la proximité. La proximité auprès, justement, de nos citoyens.
Le maire délégué de Noirterre s'est démené pour faire aboutir ce projet qui visait à réhabiliter l'ancien presbytère. Après 18 mois de travaux et quelques mauvaises surprises, Jean-François Moreau ne boudait pas son plaisir, également au micro-colline de Fabien Gazot.
C'est l'aboutissement de deux mandats de travail sur cette mairie, puisqu'on l'avait déjà proposé, nous, en 2008, quand j'ai été élu. Ça a été retenu sur le mandat précédent, avec Jean-Michel Bernier, où on a beaucoup travaillé sur comment on aménage ce bâtiment, qui est très spacieux. Au départ, ça nous paraissait colossal de tout refaire, et le fait d'y mettre aussi le foyer des jeunes et une salle de réunion pour les associations a permis d'occuper quasiment la totalité du bâtiment, et aujourd'hui, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Enfin, moi, je suis vraiment très fier de ce bâtiment qui vient redonner une dynamique en centre-bourg de Noirterre, redonner vraiment beaucoup de... Il est magnifique, ce bâtiment en centre-bourg. C'est vraiment un symbole très fort que cette ministre de la Citoyenneté soit venue l'inaugurer. J'en suis vraiment ravi.
La ville de Bressuire a investi près de 400 000 euros avec une participation de l'État à hauteur de 100 000 dans le cadre du plan France Relance pour la réalisation de cette nouvelle mairie annexe de Noirterre, inaugurée donc hier en fin de matinée. Le directeur général de la CNAF, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, Nicolas Grivel, est lui annoncé dans notre département mercredi prochain, le 14 septembre, pour assister à la présentation du projet de crèche inter-entreprise Les Petits Chênes à Bressuire. Bien entendu, nous aurons l'occasion d'y revenir.
Comme toutes les villes, Niort joue la carte de la sobriété énergétique.
Avec une envolée des prix, dès le printemps dernier, la ville avait adopté différentes mesures qui ont permis à ce jour de réduire d'environ 15% la facture, de la réduction de l'amplitude horaire de l'éclairage public à une baisse d'un voire deux degrés de la température dans les bâtiments publics, sportifs, services techniques ou encore écoles, mais aussi en reportant d'un mois l'ouverture de la patinoire. D'autres mesures vont certainement être adoptées puisqu'une réflexion est portée actuellement sur les bassins aquatiques. En parallèle, la collectivité va s'atteler à un chantier d'envergure autour de la gare. L'environnement extérieur va en effet être totalement revu pour en améliorer l'attractivité. Le maire de Niort, Jérôme Baloge.
On a, dans cette première étape de la gare, repensé le parvis côté centre-ville, le parvis côté Champomier-Gouaze, avec une gare qui, à l'avenir, ne sera plus uniquement tournée vers le centre-ville, mais offrira aussi une ouverture sur la partie donnant côté Effre, hein, et donc côté Champomier, donc une partie importante de la ville. Donc on a une gare qui ne sera plus demain une frontière, en quelque sorte, un barrage, mais qui sera plutôt un trait d'union entre deux parties de ville, en complément des points Kermade et des ponts de Limoges. Les travaux débutent dès le tout début de l'année 2023. mois. Ça va être un sacré chantier qui va durer pas loin de 2 ans, qui va transformer complètement ce quartier. Après, à l'issue de tout ça, on rentrera dans d'autres étapes, notamment pour travailler le lien gare-hôpital, qui aujourd'hui est aussi très routier et que l'on va, disons, davantage urbaniser et végétaliser. Et puis, nous aurons aussi la question de la traversée de la gare en voiture et à vélo.
Jérôme Baloge, le maire de Niort, au sujet du projet de réaménagement des abords de la gare. Une grande réunion publique, d'ailleurs, sur le sujet est prévue mardi prochain, le 13 septembre à 20h, dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville. Aucune grève ne viendra perturber les services scolaires et périurbains la semaine prochaine sur l'agglo niortaise, indique Tan Lib, après les menaces des salariés qui réclamaient notamment une hausse de salaire. Un accord a en effet été trouvé entre la direction de Transdev Poitou-Charentes et les représentants du personnel.
Scène de territoire repart pour une nouvelle saison pleine de promesses.
La période Covid a sérieusement freiné l'élan du public, mais n'a pas entamé l'enthousiasme de l'équipe dirigée par Béatrice Dopagne, qui a présenté cette semaine la teneur de la programmation 2022-2023. Après une première présentation hier soir au théâtre Le Bressuire, accompagnée du spectacle de Jérôme Rouget en cas de péril imminent, nouvelle présentation ce samedi à 20h à la passerelle de Mauléon et demain à 11h à Pescalis autour du même spectacle Risotum d'Armel Doucet et Mathieu Metzger autour d'un répertoire jazz et musique traditionnelle. Une programmation très généraliste et surtout multidisciplinaire. Béatrice Dopagne.
Une trentaine de spectacles qui permettent d'avoir un panel très diversifié de la création aujourd'hui dans toutes les disciplines, le théâtre, la musique, la danse, le cirque, l'humour, voilà, puis des formes aussi très singulières, très atypiques, qui ne sont pas forcément des spectacles comme on l'entend d'une manière commune.
Il y a quand même un point commun à tous ces spectacles et propositions, c'est l'exigence de qualité. On la retrouve aussi dans la programmation des spectacles destinés aux scolaires, par exemple.
Oui, tout à fait. C'est extrêmement important de soigner cette programmation, effectivement, direction des plus petits. Pour beaucoup, c'est le premier spectacle qu'ils vont voir. Cette programmation scolaire, elle nous permet aussi de remplir une mission en fait de généralisation d'accès au spectacle vivant.
Des séances scolaires qui seront ouvertes, et c'est une nouveauté, à des personnes qui ont des difficultés de déplacement. L'objectif de Scène de territoire est vraiment d'irriguer le territoire de l'agglo de B en proposition culturelle qui ne doit pas se concentrer uniquement au théâtre Bressuire.
Comme on est beaucoup en itinérance avec cette programmation scolaire sur tout le territoire, par exemple on va à l'Apsy, on va à la Chapelle Saint-Laurent, on va à Moutier sous l'Argenton, que tout le monde puisse en profiter.
Alors c'est l'une des particularités de Scène de territoire justement. Art en territoire, c'est un label. Hein.
Cette appellation plutôt Art en territoire, qui est donc décernée par le ministère de la Culture. Hein. Donc elle est venue reconnaître le programme de Scène de territoire. Mais quand je dis programme, c'est pas que le programme de spectacle, hein, c'est aussi son programme d'éducation artistique et culturelle. Et c'est aussi que Scène de territoire a placé au cœur de son projet la question de la relation au public ou aux personnes, aux habitants de son territoire. Et c'est ça aussi qui a été salué par cette reconnaissance par l'appellation Art en territoire.
Béatrice Dopagne, directrice de Scène de territoire, qui ouvre donc sa saison ce week-end avec deux nouveaux temps forts, puisqu'après Bressuire hier soir, une nouvelle présentation, je vous rappelle, de la saison se déroulera ce samedi soir à 20h à la passerelle de Mauléon et demain à 11h à Pescalis. Également à l'agenda de ce week-end, le retour des balades paysannes sous l'égide du Civam du Haut-Bocage, dès 14h aujourd'hui et ce jusqu'à 18h. Ce sera également le cas demain dimanche. Cette édition 2022 vous emmènera dans le Mauléonais pour y découvrir deux exploitations bovines, les Blondes d'Aquitaine chez Couton & Co à la Maison Neuve de Mauléon et les Charolaises de Gilles Dubin à la Beaubrie à Moulins. La proximité entre les deux fermes, quelques 5 km, permettra de rejoindre les deux exploitations à pied par le biais de chemins de randonnée, avec, outre les échanges entre les uns et les autres, des ateliers, des jeux et une soirée festive avec repas et animation musicale. Toutes les infos et réservations au 05 49 81 80 29. Une exposition photographique à découvrir à partir de ce samedi au château de Bressuire, celle d'une vingtaine d'adhérents et adhérentes du GEM, le groupe d'entraide mutuelle, baptisé Mon Œil. Elle présente 60 clichés en noir et blanc, format 60/40, accompagné de textes rédigés par les adhérents eux-mêmes, avec l'aide et le soutien de Christian Desbois et Nadine Rousselot. Un livre reprenant les clichés sera en vente lors de cette expo au prix de 10€. Le vernissage a lieu ce matin à 11h. Le festival musical Métif Son à Antigny, près de la Châtaigneraie en Vendée, aux portes des Deux-Sèvres, se poursuit avec ce soir Bonnet M, Les Hurlements de Léo, Léonie et Colors in the Street. Miss de Sèvres sera élue ce week-end lors d'un double concours puisqu'il est organisé en même temps que Miss Vienne à Jeunet-Marigny. 6 jeunes femmes se disputeront la couronne départementale. Et puis à retenir également l'ouverture de la chasse demain dimanche en Deux-Sèvres à partir de 8h. Environ 10 000 chasseurs attendaient ce moment avec impatience.
La fois près de chez nous, Patrice, 10h12, on en arrive à l'actu sportive.
Après 15 ans d'existence, les foulées de Loing-Mauléon sont remplacées par un trail urbain, l'UTMG, comprenez l'Urban Trail Mont-Gaillard. Le départ sera donné à 18h15 en fin de journée aujourd'hui du Château Mauléonais pour une arrivée sur le même site. Au programme pour les coureurs, les participants, un circuit de 9 km à parcourir au choix une ou deux fois. David Paya, l'une des chevilles ouvrières au micro-colline de Vincent Nori.
Quand on voit le relief de Mauléon, on s'est dit ça serait intéressant d'exploiter un petit peu le Mont Gaillard, les côtes du centre-ville qui sont intéressantes et puis le finish qui sera au château qui sont super quoi. On va partir sur un trail urbain, c'est vraiment 75% de nature, donc on va prendre tout ce qui est parc du Bicross, la Mignauderie et après on va partir vers le Bois Fichy, enfin et puis au finir sur le Mont Gaillard. Ça sera difficile sur la fin de parcours, donc celui qui veut se donner à fond, il se fera mal. Faut pas se cacher, la montée du Mont Gaillard, c'est assez difficile, mais c'est pas des côtes qui sont non plus très très longues. Donc je pense que le finish sera intéressant, ça se finit en côte avec la côte Saint-Pierre, donc là ça sera intéressant.
L'Urban Trail Mont Gaillard, c'est donc ce samedi 10 septembre, au départ du château de Mauléon à 18h15. Vous avez bien entendu invité à supporter, à soutenir tous ces coureurs.
Le football, Patrice Leschamois accueille le Havre ce soir.
Et ce match marquera le premier de l'ère Almeida. Le coach portugais officialisé le week-end dernier a dirigé les entraînements toute la semaine avec la nécessité d'être rapidement performant puisque les Chamois 16e sont dans une position inconfortable, contrairement au Havre qui a bien démarré la saison avec une 4e place après 7 journées en Ligue 2. Brian Passy a fait son retour après avoir soigné sa blessure. Il était présent en conférence de presse d'avant match hier midi au terme d'une semaine très intense.
Très intense, parce que ils veulent mettre de nouvelles choses en place et donc beaucoup d'entraînement, beaucoup de nouvelles choses à comprendre. Mais on va dire qu'on est très professionnel, très cadré, beaucoup de rythme. Donc pour l'instant, il n'est pas du tout arrêté sur un système et il va s'adapter aussi, je pense, aux joueurs qu'il a et il va mettre en place le meilleur système à ses yeux pour que l'équipe soit performante.
Les Chamois ont donc découvert leur nouvel entraîneur, Rui Almeida, qui s'est dit très content de cette première semaine de travail. Le match Niort-Le Havre ce soir à 19h à vivre, bien entendu, en direct sur Colline, en intégralité, avec aux commentaires ce soir Antoine Judith et Simon Jarnot. Toujours en football, championnat de national, les Choletais ont fait match nul hier soir face à Orléans, un but partout. À suivre également ce week-end le troisième tour de la Coupe de France. Gatifoot reçoit Saint-Sauveur, Thouars se déplace à Loudun, déplacement également de Parthenay-Viennet à Nieul-l'Espoir. Le choc entre Bressuire et Poitiers ce soir. Saint-Aubin-le-Clou accueille Cerisé, déplacement de Montcoutan à Laigne-sur-Fontaine, de Neuilly-Aubier à Vic-sur-Gartempe. Louzy reçoit Ingrandes, Saint-Sarbouillet, Neuville, Aumeur-Orté, le Talus, Terve, Montmorillon, Val-de-Boutonne, Choré, et puis en régional 1, le déplacement des Bressuraises face à Châtellerault. Un petit mot de basket et Cholet qui poursuit sa préparation avec deux matchs ce week-end avant la reprise du championnat à Luxeuil-les-Bains contre Strasbourg ce samedi et face à Dijon ou Kreilsheim, une équipe allemande, demain dimanche. Toujours en basket en National 2 masculine, déplacement de l'AS Niort à Garonne. En handball, reprise du championnat pour les Montcoutantaises dans le championnat de National 1, elles accueillent Côte Basque. Et puis en rugby en National 2, match à domicile de Niort face à Anglet demain après-midi. Puis j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin aux côtés de Jean Grelier pour les premiers résultats et réactions dans Sport Matin Dimanche à partir de 10h. Au chapitre des faits divers, un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi hier dans un bâtiment agricole situé au lieu dit Villejoie à Mauléon. Environ 150 mètres carrés de cette construction sur 250 ont été touchés par les flammes. Le sinistre a également détruit 80 tonnes de foin ainsi qu'un engin agricole.